France Inter, il est pratiquement 18h17.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir une femme qui ne transige pas avec les principes, surtout lorsqu'il y va de l'état de droit. Christine Lazerge, à la tête de la Commission nationale consultative des droits de l'homme depuis 6 ans, s'apprête à quitter son poste après 2 mandats consécutifs. Elle nous dira ce qu'elle a pu constater depuis ce poste d'observation privilégié. Elle, l'ancienne professeure de droit et ancienne députée. Elle nous dira en quoi la CNCDH a contribué à faire évoluer la loi au pays des droits de l'homme, car les libertés publiques sont fragiles, jamais définitivement acquises, toujours à surveiller comme le lait sur le feu. Également au sommaire de cette émission, préparée par Jimmy Bourquin et réalisée par Claire Destacan, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et un reportage de Sophie Parmentier au tribunal de Paris, procès des contrôles aux faciès dénoncés par 3 lycéens. 3 garçons contrôlés à leur retour d'un voyage de classe à la gare du Nord à leur descente du train sans aucune raison devant leurs camarades et leurs professeurs. Ils dénoncent l'attitude des policiers qu'ils jugent discriminatoire. Juste avant 19h, comme toutes les semaines, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, on fera connaissance avec Joe, un chien écouteur. Un chien qui n'est pas la voix de son maître, mais les oreilles de sa maîtresse. C'est à ne rater sous aucun prétexte. À 19h20, au téléphone sonne, comment lutter contre l'homophobie ? Question posée alors que les manifestations se multiplient pour dénoncer les agressions LGBT-phobes. Vous pouvez déjà nous appeler pour témoigner au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Christine Lazerge.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter et merci d'être avec nous jusqu'à 20h ce soir. Vous êtes donc la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ça fait 6 ans que vous êtes à la tête de cette instance. Vous terminez votre 2e mandat. Vous ne pouvez pas en faire de 3e. C'est la règle.
C'est la règle.
Vous vous apprêtez donc à quitter ce poste à la tête de cet organisme aussi un petit peu barbare, CNCDH. On ne sait pas toujours très bien de quoi il s'agit. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire à quoi sert cette commission ?
Eh bien, c'est très simple. Cette commission, j'aime la qualifier comme étant un lanceur d'alerte et une instance de contrôle. Elle a été créée en 1947, au moment où René Cassin rédigeait avec d'autres la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'époque, elle était conçue comme une commission interne au ministère des Affaires étrangères qui était déjà à l'époque en contrôle d'engagements internationaux de la France. Cassin avait voulu que dans chaque État nouvellement membre des Nations Unies, il y ait une commission de ce type. Et puis l'histoire faisant, les années venant, la commission est devenue pluraliste et indépendante, extérieure au ministère des Affaires étrangères, et aujourd'hui, elle se félicite d'avoir ce statut d'institution nationale de protection et de promotion des droits de l'homme, et la nôtre, la Commission française, est accréditée A par les Nations Unies. Nous avons d'ailleurs joué un rôle pilote dans la mise en place d'une coordination francophone, d'une coordination européenne et internationale. Alors, à quoi servons-nous ?
Mais juste une toute petite parenthèse, Christine Lazerge, oui. Puisque vous venez de parler de René Cassin.
Oui.
René Cassin qui a été le premier président de cette commission.
Absolument, et il a été très longtemps.
Voilà. On va l'écouter, René Cassin, parce qu'on a retrouvé une petite archive exprès pour vous.
Alors ça me fait vraiment plaisir.
Voilà, René Cassin qui s'exprimait à l'occasion de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on va fêter les 70 ans au mois de décembre. On l'écoute.
Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres.
René Cassin, le 10 décembre 48, au Palais de Chaillot, où a été signée cette Déclaration universelle des droits de l'homme, Christine Lazerge, une déclaration qui est plus que jamais d'actualité ?
Plus que jamais d'actualité, hein ? Insuffisamment connue, insuffisamment célébrée, et en raison en particulier de son article 1er, qui dit que les êtres humains, tous, naissent libres et égaux, en dignité et en droit, la déclaration de 89 française n'évoquait pas la dignité. Et la dignité, dans l'esprit des rédacteurs de cette déclaration universelle, c'est une valeur surplombante, c'est pas un droit. C'est ce qui est commun à nous tous, commun à chaque homme et à chaque femme et qui nous situe dans une relation d'altérité et d'ouverture à l'autre et à sa différence d'avec soi-même. Et c'est de l'égalité en dignité que découle un certain nombre de droits dont l'accès est quelquefois difficile, mais que découle aussi l'impossibilité d'accepter la peine de mort, l'impossibilité d'accepter les traitements inhumains et dégradants, et la nécessité d'être, je le disais tout à l'heure, en alerte, d'être capable de s'indigner aussi bien de la façon dont nous accueillons des étrangers qui passent nos frontières, migrants ou pas migrants d'ailleurs, de la façon dont sont jugés ou alertés, interpellés un certain nombre de personnes dans ce pays, de alors la façon dont ne sont pas logées beaucoup de personnes dans ce pays.
Alors s'indigner, vous l'avez fait au cours de ces deux mandats.
Sur
la question des migrants, Christine Lazer, évidemment, mais par exemple, il y a eu aussi toute la législation état d'urgence suite aux attentats.
Sur l'état d'urgence, nous avons rendu 7 avis successifs. Avis sur auto-saisine, pas sur saisine d'un membre du gouvernement. La différence des migrants sur les questions d'asile-immigration, il est coutumier depuis une vingtaine d'années que le ministère de l'Intérieur saisisse la commission. Sur l'état d'urgence, nous nous sommes systématiquement inquiétés des régressions de l'état de droit. Systématiquement. Et vous évoquez tout à l'heure l'état de droit. L'état de droit, c'est précisément l'inverse de l'état de police. Et chaque fois que les garanties de l'autorité judiciaire baissent la garde ou que la loi fait qu'elle vont baisser la garde, chaque fois nous sommes en régression de l'état de droit. Et quand on insère dans le droit commun, ce qui est le cas avec la loi du 30 octobre 2017, des dispositifs de l'état d'urgence, eh bien, on fait régresser l'état de droit.
Mais vous, Christine Lazer, je vous êtes indignée, notamment contre des gens qui, contre la politique de certains de ceux qui vous avaient nommé à ce poste. Vous avez été nommée par Jean-Marc Ayrault, reconduite par Manuel Valls, donc vous n'avez pas hésité à leur dire ce que vous pensiez. Mais très sincèrement, sur toutes ces depuis 30 ans, cette inflation législative face à la menace terroriste, les Français, eux, ne s'indignent pas trop. Pour eux, c'est le droit à la sûreté, à la sécurité qui doit primer. Le discours sur les droits de l'homme, il est presque inaudible dans ces temps d'alerte terroriste.
Il est devenu de plus en plus difficile et on est de plus en plus souvent qualifié de droit de l'hommeniste et pas de défenseur des droits de l'homme. Vous avez à l'instant parlé de droit à la sûreté et droit à la sécurité, et précisément ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on confond droit à la sûreté et droit à la sécurité. Le droit à la sûreté, c'est précisément le droit aux garanties contre des intrusions excessives de l'État, et c'est un vieux droit, il date de 1789, et pendant très longtemps, on n'a pas parlé de droit à la sécurité. Il n'est posé en droit français que depuis une loi de 1995 et il n'existe que depuis tout récemment un code de la sécurité intérieure. Et si on prend la Déclaration universelle des droits de l'homme, figurez-vous, personne n'arrive à le croire quand je le dis ou quand la CNCDH le dit fortement dans un avis, il n'est pas question du droit à la sécurité, sauf pour parler dans les articles 22 et 25 de la sécurité nécessaire social ou contre le chômage.
Alors à propos des Nations Unies, Christine Lazerge, il se trouve que cette semaine, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a estimé que la France avait porté atteinte aux droits de deux femmes verbalisées pour port du voile intégral ou du niqab. Et là aussi, les gens se disent en France, mais à propos de l'ONU, mais de quoi je me mêle sur une question comme celle-là ?
Alors les gens ne doivent pas se dire de quoi je me mêle, puisque le Comité des droits de l'homme de l'ONU a pour mission d'être en vigilance du respect d'un certain nombre de droits, lui aussi. Mais par contre, je comprends que l'on soit stupéfait en France de cette décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et en tant que femme et féministe, il me paraît impensable d'accepter l'enfermement d'une femme dans un vêtement qui la prive d'être reconnue précisément comme une autre digne que l'on la respecte et digne qu'on puisse avoir un dialogue d'altérité avec elle.
En tout cas, on voit que le domaine des droits de l'homme est un domaine très vaste et on va évidemment y revenir ensemble jusqu'à 19h, Christine Lazerge. Mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine avec ce mix qui a été mis en onde par Claire Destacan. Actualité française, je le précise. Au sommaire ce vendredi, la libération de la parole des enseignants à travers le hashtag Pas de vague, les trottinettes électriques bientôt bannies des trottoirs et le sort de l'aciérie Ascoval toujours en suspens dans le Nord.
Moi, je suis mort avant-hier. J'attendais la date de mon enterrement, tout simplement. Mais on me l'a pas encore donné. On me l'a juste reporté. On dort plus, on vit plus. C'est plus que ras-le-bol. Qu'on arrête de nous mentir, de nous promener, de nous reporter, il faut trancher.
Deux semaines de sursis pour les quelques 300 salariés de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Une entreprise mise en vente par Vallourec, dont l'État est pourtant actionnaire. D'où la colère des élus de la région à l'image de la sénatrice Valérie Létard.
Nous attendons du président de la République qu'il ne soit pas le fossoyeur de l'industrie française aux côtés de Vallourec, mais bien au contraire, celui qui relève le défi et qui fait de l'industrie française une véritable priorité nationale.
Cette semaine, apparition d'un nouveau cri de ralliement sur les réseaux sociaux. Le hashtag Pas de vague, lancé par des profs après la diffusion d'une vidéo sur laquelle on voit un lycéen mettre en joue sa professeure avec une arme factice.
Eh bien là, madame, vous
êtes absent.
Mais t'es présent, là, moi,
mais absent.
Et ça saute.
La vidéo a fait le tour du net, l'auteur des faits a été mis en examen, mais pour les enseignants, cela fait trop longtemps que l'éducation nationale met la poussière sous le tapis, alors chacun y va de son récit.
Je me retrouve au milieu d'une bagarre de garçons de cinquième et je me prends plusieurs coups. Pourtant, lors du conseil de discipline qui va avoir lieu, on expédie rapidement les faits. Je pense qu'il ne faut pas remettre en cause la parole de ces professeurs, parce que derrière ça, il y a une sorte de lassitude des réactions de la hiérarchie. On est peu entendu.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a eu beau se dire choqué et scandalisé par ce qui s'est passé à Créteil, lui l'ancien recteur de l'académie, il a surtout paru hors sujet en évoquant une nouvelle fois son thème fétiche.
Je recommande au lycée, à minima, de réglementer assez fortement l'usage du téléphone portable.
Emmanuel Macron était dans l'Aude lundi. Le président est venu annoncer le déblocage de fonds après les inondations meurtrières de la semaine passée. À Trèbes, une ville déjà meurtrie par une attaque terroriste au printemps dernier, il a rendu hommage aux habitants.
Trèbes, c'est une ville de la République. Et la République, c'est vous.
Tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien ?
Et la République, c'est vous.
La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous le lien, on va passer le
temps ! Bousculer le procureur, ces scènes-là, ça donne un exemple à des mômes. C'est absolument scandaleux.
L'avocat maître Éric Dupont-Moretti.
Comment le gamin de cité qui va être embarqué demain parce qu'il a dit « nique ta mère » à un policier, il va comprendre l'attitude de Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon a poursuivi sur sa lancée cette semaine en appelant à pourrir les journalistes de Radio France, Radio France qui a porté plainte. Quant à la justice, elle vient de confirmer le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion qui concerne les comptes de la campagne présidentielle de 2012. Sinon, cette semaine, du nouveau pour les piétons. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonce l'interdiction des trottinettes électriques sur les trottoirs.
Et ben non !
Ces engins pourront circuler sur les pistes ou sur les bandes cyclables ou dans les zones à 30 km/h, mais leur place n'est pas sur les trottoirs où la sécurité des piétons doit être assurée.
Ben, ils vous rentrent dedans, ils s'en foutent royal au bar.
Bientôt, les trottinettes électriques, il n'y en aura plus sur le trottoir.
Et il y aura encore.
Vous y croyez pas, quoi.
Père Noël, non, vous y croyez, vous ?
Bon, on n'est pas encore à Noël, mais ce week-end, c'est le passage à l'heure d'hiver. En fait, comment ça marche ?
À 3h, il sera quelle heure ?
4h. 2h.
4h ou 2h ?
2h.
Alors, étant donné qu'il va faire nuit 1 heure de plus, à 3h, il sera 2h.
Ça veut dire qu'on gagne du sommeil ou qu'on en perd ?
On gagne du... Non, on perd 1 heure de sommeil.
Madame, s'il vous plaît,
à 3h, il sera quelle heure ?
À 3h, il sera 4h.
Bon, ce n'est pas gagné. Alors, pour vous aider, sachez que la nuit de samedi à dimanche sera la plus longue de l'année, avec 1 heure de sommeil en plus. Elle n'est pas belle, la vie ?
Et encore merci à Claire Destacan. Christine Lazerge avec nous ce soir dans Une Semaine en France. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a retenu votre attention dans cette actualité hexagonale, Christine Lazerge.
Plusieurs choses. La question des violences scolaires à l'encontre des professeurs, c'est très difficile. C'est certainement pas en mettant des policiers dans les écoles ou les collèges ou les lycées que l'on va résoudre le problème. Mais c'est peut-être en ayant... vraiment une attention particulière à ce qu'on appelle l'éducation civique et qui ne devrait pas être confiée à un seul professeur, mais être une mission partagée absolument par tous les enseignants. Et le mot respect, que d'ailleurs le ministre Blanquer prononce souvent, le mot respect est sans doute un terme qui doit devenir un terme clé dans les relations entre les uns et les autres en école, collège, lycée, et qui doit aussi être réenseigné aux parents. Parce que les critiques des parents à l'égard des professeurs ont des effets négatifs néfaste sur le comportement des élèves.
Sur les crispations de notre société, Christine Lazer, sur cette violence qui semble monter dans beaucoup de secteurs, vous, à la CNCDH, vous utilisez un indice de tolérance qui sert à calculer le degré, par exemple, de racisme de notre société, c'est ça ?
Oui, une équipe de chercheurs a mis en place pour nous. Nous avons la mission depuis une loi de 1990 de remettre chaque année au Premier ministre un rapport sur la lutte contre le racisme. Et ce groupe de chercheurs a mis en place un indice longitudinal de tolérance. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet indice a plongé, non ça c'est pas contrairement parce qu'il est normal qu'il ait plongé immédiatement à la suite des attentats terroriste, mais depuis, il est revenu à son niveau antérieur. Il avait plongé surtout en raison de la crise économique, puis ont suivi les attentats terroristes, et même à la fin des attentats terroristes, très vite, il a commencé à regrimper et à revenir à un niveau qui était le niveau d'il y a une dizaine d'années. Et cet indice est rassurant parce qu'il montre que quand même, la lutte contre les préjugés, c'est une lutte que beaucoup d'autres avec nous conduisons avec acharnement, la lutte contre les préjugés porte, et que pour toutes les formes de discrimination, ce qui est à la racine, c'est un préjugé, qu'il s'agisse de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme. Nous sommes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, nous sommes chargés aussi de participer à l'éducation aux droits de l'homme, pas seulement de la promotion et de la protection, mais l'éducation aux droits de l'homme. Et il m'apparaît que ce que nous faisons, nous, institutions de la République, est forcément modeste, mais doit donner l'envie d'en faire beaucoup plus. Nous produisons quelques petits films. On a produit un petit film sur la richesse de la différence pour les enfants de l'école maternelle et le tout début du primaire. Et ces actions-là sont des actions un peu exemplaires.
Alors, ce qui va suivre va vous intéresser à plus d'un titre.
Oui.
France Inter, le 18-20. Claire Servagent.
Le reportage de la semaine, il va nous conduire à présent au Palais de Justice de Paris, où a eu lieu cette semaine un procès où il est question justement de discrimination. Lundi, trois lycéens de Seine-Saint-Denis ont assigné l'État en justice pour des contrôles d'identité qu'ils jugent discriminatoires. Les faits s'étaient déroulés au retour d'un voyage de classe en mars 2017. Trois élèves d'origine africaine et maghrébine avaient été contrôlés devant leurs camarades et leurs enseignantes. Pourquoi eux et pas les autres voyageurs ? C'est toute la question qui a été débattue lundi. Sophie Parmentier.
Les trois lycéens, Ilias, Zakaria et Mamadou, sont arrivés un peu anxieux à ce procès, tous vêtus d'une chemise blanche. L'un d'eux a même sorti une cravate bleu marine. Tous trois se disent encore choqués par ce contrôle de retour d'un voyage scolaire à Bruxelles. À peine sorti du Thalys, gare du Nord, un policier m'a barré la route sans raison, assure Ilias.
Dès qu'on a posé les pieds sur le quai, on a marché le long du quai. À 50 mètres, je me suis fait barrer la route pour me faire contrôler. Et c'est à ce moment-là, vraiment, je me suis senti humilié et triste, quoi. Parce que j'entrais, on était à moitié endormi dans le train, on voulait tous rentrer chez nous. Et au moment où je marche sur le quai, je vois, il y a un agent qui sort de nulle part, avec une feuille dans les mains, il me barre la route et qui me dit « mets-toi sur le côté ». Et comme un prof a essayé de parler avec lui, il voulait rien savoir. Genre, elle lui parlait, elle disait « je suis sa prof » et tout, etc. Et il voulait vraiment rien savoir. En fait, ce qui m'a le plus humilié, j'étais vraiment déçu. Je me suis fait contrôler à la fin du contrôle. Une dame qui est passée qui m'a dit ça fait une vingtaine d'années qu'elle prend les transports et qu'elle s'est jamais fait contrôler. Après, elle m'a dit oui, c'est un contrôle discriminatoire. J'étais dégoûté.
La professeure qui encadrait cette sortie scolaire, Élise Bocherel-Denise, est venue à l'audience soutenir ses trois élèves. C'est elle qui les a incités à porter plainte. Leur combat est juste, dit-elle.
Je suis fière du message aussi qu'ils portent. C'est-à-dire que, on est dans un état de droit. Et lorsque j'enseigne en éducation morale et civique, vous avez des devoirs mais aussi des droits, et bien là c'est un véritable exercice d'éducation civique. Et j'encourage évidemment tous les jeunes qui ont ce sentiment en tout cas d'être discriminés lors des contrôles de police d'en faire de même. d'aller en justice.
L'avocat des lycéens, maître Slim Benachour, demande que l'État soit condamné pour faute lourde. Les policiers, regrettent-ils, n'ont pas prouvé que ces contrôles s'imposaient. L'avocat martèle que ce n'est pas aux élèves d'apporter la preuve de la discrimination, comme le demande la partie adverse, le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de fatalité. On peut changer cette culture policière, clame maître Benachour, qui cite en exemple New York.
On a beaucoup parlé de terrorisme pour justifier les contrôles. Je rappelle que le meilleur exemple vient de New York, ville qui a été touchée par le terrorisme et qui a su réduire de 98% les contrôles d'identité entre 2011 et 2016. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a eu des procédures judiciaires, il y a eu des hommes politiques courageux qui ont dit « ça suffit, les contrôles d'identité au faciès ».
À Paris, le procureur a estimé cette semaine que ces trois contrôles aléatoires Gare du Nord étaient justifiés. Le jugement sera rendu le 17 décembre. L'avocat des lycéens rappelle que lorsque la discrimination raciale est opérée par un agent de la force publique, 50 prisons sont encourues. Pour ce procès civil, maître Benachour réclame uniquement des peines d'amende au nom des droits de l'homme et de l'égalité entre tous les lycéens, quelle que soit la couleur de leur peau.
Un reportage de Sophie Parmentier. Cette question des contrôles policiers, Christine Lazerge, la Commission nationale consultative des droits de l'homme que vous présidez, elle s'en est emparée.
Elle s'en est emparée dans un avis important qui a deux ans maintenant. Nous n'avons pas titré l'avis contrôle d'identité au faciès, mais discriminatoire, à un moment où la Cour de cassation venait de rendre une décision extrêmement importante, considérant que que le contrôle discriminatoire, quand il était prouvé discriminatoire, constituait une faute lourde, entraînant la responsabilité de l'État. Dans le cas présent, c'est émouvant d'entendre ce que dit le lycéen. Il l'a dit à plusieurs reprises, j'ai été humilié, c'était humiliant. Il n'y a rien de tel pour faire monter une certaine indignation contre la ségrégation dont font partie certaines jeunes issues de pays qui ne sont pas la Creuse ou l'Hérault.
Il faut
être extrêmement sévère.
Il faut une traçabilité des contrôles ?
Nous estimons qu'il faut absolument une traçabilité des contrôles, que la caméra piéton n'est pas quelque chose de suffisant. Mais bien sûr, il faut une traçabilité des contrôles, mais il faut surtout une prise de conscience de l'impact absolument négatif dans le lien à la République qu'entraîne un contrôle d'identité discriminatoire. À l'évidence, il s'agit ici de contrôle d'identité discriminatoire. On ne comprend même pas comment on peut imaginer qu'il en soit autrement.
Christine Lazerge, les politiques y reculent systématiquement sur ce sujet-là. Vous avez été députée, vous savez comment ça fonctionne. François Hollande avait promis le récépissé, il n'a rien fait.
Oui, alors les expériences à l'étranger sur le récépissé sont des expériences diverses. En Grande-Bretagne, il y a une tradition bien plus positif qu'en France, dans le contact avec le citoyen, entre le policier et le citoyen. Nous pensons que le récépissé doit être au moins expérimenté et dans les plus brefs délais. Et que la caméra piéton n'est de loin pas suffisante, puisqu'elle va être mise en marche et éteinte par le policier lui-même. Par contre, aujourd'hui, ce qui fonctionne assez bien, c'est les prises d'images de témoins. Dans le cas de contrôle d'identité discriminatoire. Il faut vraiment en venir à l'expérimentation du récépissé. Mais j'insiste sur l'humiliation insupportable de lycéens qui se voient contrôlés alors que leurs petits camarades gaulois, entre guillemets, ne le sont pas.
Christine Lazerge, sur ce sujet, la CNCDH s'est exprimée sur d'autres sujets aussi. Alors, à l'heure où vous allez quitter votre poste, dites-nous quels sont les domaines dans lesquels votre commission a vraiment fait évoluer le droit. Un ou deux exemples. Grand public, si
possible. Je vais prendre un exemple. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Mais j'en prends un dont on ne parle pas suffisamment et qui concerne la situation des personnes handicapées. Et j'y pense parce que vous avez évoqué la question des chiens pour personnes sourdes. Il se trouve que dans ce pays, il y a encore des personnes sous tutelle qui peuvent être privées du droit de vote.
Alors on en a parlé hier, puisque le gouvernement a annoncé que
voilà.
À l'avenir, les choses allaient changer.
Nous sommes vraiment les seuls à avoir rendu un avis demandant l'abrogation de l'article L5 du code électoral, texte qui autorise encore des juges des tutelles à priver du droit de vote. Et pourquoi ? Ben, tout simplement parce que dans notre pays, le droit de vote n'est pas capacitaire. Personne ne répond à un questionnaire, à un QCM ou à que sais-je, qu'il ait 20 ans ou 99 ans. Et donc, c'est une avancée que de permettre souvent à des personnes qui souffrent de troubles divers et variés, mais qui peuvent entraîner une tutelle et qui peuvent cependant s'intéresser à la chose publique. C'est une vraie avancée que nous demande la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Et il nous est demandé que le droit de vote soit reconnu à toute personne. Voilà.
Sur la question des migrants, Christine Lazerge, effectivement, vous vous êtes exprimée à plusieurs reprises, mais il y a une nouvelle loi asile-immigration qui a été votée, malgré les mises en garde des organisations de défense des droits de l'homme. On a l'impression que le discours ne passe plus. Emmanuel Macron lui-même, il justifie ses positions en expliquant que sinon, c'est la montée des populismes et c'est l'extrême droite.
Non, je suis obligée de dire que sur ce point, nous sommes assez sévères avec la position de ce gouvernement. Et cette loi qui vient d'intervenir, elle ne travaille que sur une période qui n'est pas la période d'entrée sur le territoire. Et là où il y a un vide à la fois juridique et social sidéral, c'est entre l'entrée sur le territoire et le dépôt d'un dossier pour demande d'asile dans une préfecture. Il peut se passer là 6 mois. Rien n'est prévu. Et sans la société civile, et hier soir je débattais de cela à Strasbourg, sans la société civile, dans ce pays qu'est la France, des centaines de personnes seraient à la rue. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons écrit, et ce qui est très encourageant, c'est que certains tribunaux administratifs maintenant condamnent les préfets et par des injonctions de faire, à trouver des solutions pour que les personnes soient hébergées. Le texte actuel, en fait, est un texte qui est à visée électoraliste, disons, entre guillemets, sans vouloir être excessive, et qui n'apporte pas grand-chose par rapport au texte précédent, et qui, justement, ne règle pas la question des 6 premiers mois ou de la première année sur le territoire de la République.
Alors, on aura l'occasion d'évoquer d'autres domaines dans lesquels intervient la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Mais d'abord, on écoute Alain Bashung, Immortel.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviner que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on dit. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. immortel.
Immortel, un des titres de l'album posthume d'Alain Bashung qui sortira le mois prochain, programmation musicale signée Djoubaka. Une semaine en France, toujours en compagnie de Christine Lazerge, présidente pour quelques semaines encore de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On va parler un petit peu de vous maintenant, Christine Lazerge. Je crois qu'on peut le dire, née en 43 dans une
en novembre,
famille aisée, on peut dire ça peut-être, un grand-père sénateur, un autre ministre. Vous, vous êtes professeur de droit, spécialiste de droit pénal, vous avez réussi à mener de front études et maternité, 4 bébés entre les concours, vous avez réussi à tout concilier, et puis l'agrégation en poche, vous êtes partie enseigner en Côte d'Ivoire, c'est ça ?
Absolument.
Pendant 4 ans ?
Absolument.
Vous êtes partie là-bas avec mari et enfant. 4 ans passés en Afrique, qu'est-ce que vous ont appris sur le continent africain ces 4 années passées là-bas ?
Ces 4 années ont été passionnantes, et elles m'ont appris combien il était important à cette époque-là, je ne dirais plus cela aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de coopérants techniques. Et d'ailleurs, l'agrégation de droit, à l'époque, sur 20 postes offerts aux candidats reçus, il y en avait au moins 5 ou 6 dans des pays anciennement colonies. Et c'était vraiment intéressant d'avoir à former les premiers professeurs de droit de la Côte d'Ivoire et j'étais extrêmement séduite par l'attente de mes jeunes assistants, dont un certain nombre sont devenus professeurs, extrêmement enthousiasmés de voir l'attente des étudiants aussi, qu'on voyait à Abidjan travailler le soir sous les lampadaires, car beaucoup d'entre eux n'avaient pas l'électricité chez eux. Mon mari, de son côté, participait comme ingénieur à la construction de barrages. Tout cela a été extrêmement intéressant. Le dernier de nos enfants, d'ailleurs, est né à Abidjan.
Après, il y a le retour à Montpellier, Christine Lazerge,
oui.
Où vous allez très vite vous engager en politique, au Parti Socialiste, adjointe au maire Georges Frêche. Il vous a pris sur ses listes parce que, paraît-il, vous représentiez bien la diversité femme-mère protestante.
Exactement. Il m'a d'ailleurs très clairement dit qu'il ne me prenait pas sur sa liste parce que j'étais professeur de droit comme lui, mais parce que j'étais une femme et que j'étais protestante. J'appartenais du côté et de mon père et de ma mère, de l'Est et du Sud, à une famille protestante, une famille où on aime résister et s'indigner.
Alors, après cette expérience municipale, vous êtes devenu député en 97, après la fameuse dissolution. Vous avez même été
un coup de chance.
Vice-présidente de l'Assemblée. En 2 mots, comment on vit le passage de juriste à l'université à député qui est chargé de fabriquer la loi ? On découvre un autre aspect des choses.
On le vit assez bien parce que comme professeur d'université, surtout professeur de droit pénal, fabriquer la loi, c'est une source de renouveau de ses cours. Et j'ai beaucoup enrichi mes cours par mon expérience parlementaire. Mais je n'étais pas parlementaire, disons-le, pour enrichir mes cours. Mais il se trouve que c'est le cas. Et comme professeur de droit, être rapporteur de grands textes, comme la loi du 15 juin 2000, renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, c'est une chance extraordinaire.
C'est cette fameuse loi qui a permis l'appel aux assises,
c'est
qui
ça,
a interdit
exactement.
De diffuser la photo des personnes menottées.
C'est cette fameuse loi où d'ailleurs le Parlement, plus que jamais, Assemblée nationale et Sénat, les rapporteurs et les groupes de travail étaient enthousiastes à l'idée de balayer le code de procédure pénale de A à Z ou presque. Et au fond, ça a été là une très belle expérience de parlementaire. Sinon, je me suis souvent désolée, du petit poids du Parlement et de l'emprise très très forte du gouvernement.
Et ça ne va pas forcément s'arranger si la réforme constitutionnelle qui est en préparation continue.
Mais c'était déjà le cas sous Jospin.
Arrive au bout. Pendant toutes ces années, Christine Lazerge, de ce parcours, donc il y a eu l'Afrique, Montpellier, Paris, l'Assemblée, votre mari a toujours été à vos côtés, votre premier soutien. Ce mari, il est très féministe, d'après ce que j'ai compris.
Absolument. Je dis toujours qu'il a beaucoup donné et qu'il continue à beaucoup donner pour la cause des femmes.
Il paraît qu'à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on l'appelle l'assistant personnel. Personnel assistant. Il paraît qu'il est resté à Montpellier, vous êtes à Paris, il vous réveille depuis Montpellier.
Non, mais
c'est trop mignon.
C'est vrai qu'il est un peu un conseiller spécial et que ça me facilite beaucoup de choses. Mais j'ai une équipe formidable aussi à la CNCDH.
Oui, non, mais ça, on est bien d'accord.
Des enfants formidables.
On va passer, Christine Lazerge, comme promis, aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. C'est notre rubrique positive de tous les vendredis soirs. Bonsoir, Sandrine.
Bonsoir.
Alors, comme ça, vous êtes tombée raide dingue d'un chien.
Exactement. Est-ce que vous connaissez les chiens écouteurs ?
Non, ça ne me dit rien.
Eh bien voilà, tout le monde connaît les chiens guides d'aveugles, oui. Mais les chiens écouteurs, personne ne connaît. Or, ils le méritent. Un chien écouteur est un chien qui, tenez-vous bien, va aider les sourds à entendre. En fait, c'est leurs oreilles.
C'est-à-dire qu'il va aider la personne qui n'entend pas dans son quotidien ?
Exactement. Audrey, par exemple, elle n'entend plus rien. Elle est devenue sourde à 18 ans, complètement sourde après un AVC. Eh bien, son berger australien, Joe, écoute tout ce qui l'entoure à sa place.
C'est-à-dire,
Joe était dressé dans la seule école de chiens écouteurs de France, les chiens du silence, dans les Hautes-Pyrénées. Il a appris à reconnaître plus d'une dizaine de sons qu'il analyse, qu'il retransmet ensuite à sa maîtresse, non pas en aboyant, évidemment, mais en lui faisant des signes, en la touchant. C'est du contact. C'est très, très impressionnant. Vous allez voir.
Alors, vous êtes allé près de Douai, sonner chez Audrey. C'est Joe qui a entendu la sonnette. Précisons que si vous avez pu dialoguer avec Audrey, c'est qu'elle sait parfaitement lire sur les lèvres et qu'elle n'a rien perdu de sa diction depuis son accident.
Joe, viens là, viens mon gros, viens dire bonjour, viens là. Voilà mon pépère, un beau petit loulou, en fait, 26 kilos quand même. Là, il se demande ce qui se passe, donc il nous regarde.
Ces deux petites oreilles dressées, c'est à elle qu'on doit cette interview. Sans elle, Audrey n'aurait pas vu le SMS de France Inter, c'est son chien qui l'a prévenu que son portable venait de biper.
C'est un miracle. En fait, Joe me permet d'entrer dans votre monde, dans la vie.
Sans Joe, vous êtes dans quel monde ?
Dans un monde de silence et de solitude. Je suis sourde. C'est compliqué pour un sourd.
Comment ne pas rater la sonnerie du réveil, par exemple ? Avec Joe, c'est plus facile.
Quand le réveil sonne à 6 heures, il vient, il met deux pattes sur mon côté, et puis il me lèche en fait les mains. Il vient me chercher, il faut que je sorte du lit en fait.
Du réveil jusqu'au coucher, Joe ne quitte pas sa maîtresse d'un poil. En voiture, c'est carrément indispensable.
Joe a une ceinture de sécurité, donc il est assis au siège passager. Et c'est lui qui m'indique les bruits signifiant une urgence.
Un exemple.
Bon, une fois sur l'autoroute, Joe m'a indiqué l'arrivée des pompiers. La voiture arrivait vraiment de mon côté, il fallait vraiment que je m'écarte. Et Joe, en fait, là, à ce moment-là, a mis sa patte sur mon bras et d'un air de dire non, mais c'est maintenant, en fait.
Parce qu'évidemment, vous n'entendez pas les sirènes.
Non, je ne les entends pas. Donc si j'arrive à les voir, tant mieux. Sinon, c'est Joe, en fait. Un jour, j'ai laissé trop longtemps mon clignotant. Il a posé sa patte sur mon bras, s'est mis à gonfler des joues, puis il me montrait en fait le clignotant qui clignotait toujours.
En regardant le cadran, mais enfin, c'est dingue.
Joe indique la provenance du bruit. Donc il va me montrer le lieu où se situe le bruit, et si je ne comprends pas vraiment, il va vraiment insister, me montrer vraiment précisément où ça se situe.
Ce n'est pas un chien. C'est un radar.
Parfois, quand il y a des gens en trottinette qui arrivent vraiment vite, Joe, en fait, fait barrage.
Il entend le bruit d'une trottinette ou d'un vélo.
Il entend vraiment tout. Un enfant, un autre chien. Il est vraiment vigilant au moindre bruit, en fait. Comme le danger, pour moi, en tant que sourde, vient de derrière et pas devant, Joe fait barrage de tout ce qui peut arriver derrière.
Et si Audrey ne comprend pas ce que son chien veut lui dire, plan B.
En fait, j'ai juste à lui demander en langage des signes qu'est-ce qu'il y a. Et
En langage des signes ?
Oui. On met les mains, en fait, les paumes vers le haut et on fait un balancier, en fait.
Démonstration.
Montre-moi, Joe, montre.
Une voix d'homme vient d'appeler Audrey depuis la cuisine.
Joe, montre-moi, montre. Donc là, en fait, il est venu me chercher et là, il me conduit à la source du bruit. Donc là, on traverse le salon, on arrive à la cuisine et il y a monsieur.
Mais c'est dingue.
Montre-moi. C'est monsieur, il m'a appelé.
Allez, dernier exemple, il est 20h, Audrey attend des invités.
Si je veux mettre un plat au four, je fais préchauffer mon four et forcément, à un moment donné, je dois attendre 5 minutes pour que le four m'indique que c'est chaud. En fait, je compte sur Joe. C'est Joe qui va venir me chercher, m'amener jusqu'au four pour me dire qu'il faut que je mette mon plat. C'est ça mon miracle. Je suis entendante. C'est lui qui me donne vie, en fait. Puisqu'il me montre tout, il m'indique tout. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ma vie sans Joe ou un autre chien écouteur à venir.
Ça veut dire que vous vous préparez aussi quand même un jour, ce chien partira en retraite ?
Joe restera avec moi. On aura un petit frère ou une petite sœur, hein, mais on n'aura pas... Joe restera à la maison. Il finira ses jours avec nous. Joe et moi, on est fusionnels. Vous ne pouvez pas nous séparer. Vous nous tuez tous les deux, en fait. Je ne peux pas me séparer de lui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, sinon, en fait, vous me renvoyez dans mon monde de silence. Et puis surtout, c'est mon guide. Ce n'est même pas mon chien guide, c'est mon guide dans la vie. Et je dois tout, en fait, à l'association des chiens du silence. Elle donne tout. Tout pour les chiens qu'elle forme et aussi pour nous. Il y a un vrai silence de sourds sur ces merveilleux chiens. Viens, Joe. Viens là.
Merci Sandrine Houdin pour ce...
C'est extraordinaire.
Extraordinaire cette histoire.
J'ai vu vos yeux. Je ne le savais pas, moi, je l'ignorais.
Tout le monde ignore. Hein, les chiens du silence, on ne les connaît pas encore.
Mais il y en a beaucoup. Enfin, il y a une...
Il y a une seule école qui a besoin de dons, j'en profite, elle ne vit qu'avec la générosité, mais elle aide énormément de personnes sourdes et malentendantes. Incroyable.
Et ces chiens sont sans doute longs à former.
Sans doute assez long. Oui. On précise qu'il y a une rencontre les 9 et 10 novembre. Les canidéennes rencontrent de tous ces chiens, chiens guides d'aveugles, chiens d'assistance, chiens écouteurs. Sandrine, ce sera à l'Isle-sur-Sorgue dans le Vaucluse. Il faudrait quand même que vous alliez faire un tour parce que c'est vrai que ça paraît incroyable. Christine Lazerge, vous nous disiez tout à l'heure, effectivement, le handicap, c'est une cause de discrimination.
Bien sûr. Et c'est une cause... C'est aussi une situation où on est reporté aux marges de la République, aux marges de la société. Et donc, la lutte contre toutes les formes de handicap est une lutte vraiment capitale. Vous me posiez des questions sur moi et ma famille. J'ai eu un petit frère trisomique et nous considérons tous qu'il nous a énormément apporté sur le regard que nous portons maintenant sur l'autre différent et sur des qualités extraordinaires qu'il avait et que n'a pas le commun des mortels.
On pourrait aussi parler, Christine Lazerge, des prochains avis de la CNCDH qui sont attendus, mais on n'a plus le temps, notamment sur les violences sexuelles sexistes, sur la PMA, l'accès aux origines, sur la réforme de la justice...
Et sur la lutte contre le racisme dans le sport. Ces 4 avis qui vont être soumis à notre prochaine assemblée plénière. Promis. Sur la réforme de la justice, je peux juste vous dire que nous sommes très attentifs à ce que l'accès à la justice soit rendu plus facile et pas plus difficile.
On va suivre évidemment tous vos avis, vos derniers avis, Christine Lazerge. Moi, j'ai quand même une question plus personnelle pour terminer cette première partie, parce que quand on a été député, professeur de droit, qu'on a eu droit aux honneurs des collègues, professeurs de droit à travers des manches de droit, président de la CNCDH, à quoi peut-on aspirer ?
On peut aspirer à continuer à vivre intensément, et il y a 1000 choses à faire dans cette société, et peut-être à être plus près du terrain. Il y a à la CNCDH 30 associations, et si je le souhaite, j'aurai absolument l'embarras du choix, et peut-être que mon choix se portera sur l'accueil des migrants.
Une retraite active au service des droits de l'homme, c'est ça ?
Je n'envisage pas une retraite non active.
La politique en tant que telle, c'est...
Alors, la politique
c'est
dans
fini ?
En tant que telle, mais dans le débat d'idées, oui. Dans le débat d'idées, ce n'est pas fini.
Alors, j'ai pas cité les ouvrages aussi dont vous êtes l'auteur, Christine Lazerge. Il faut dire que c'est des livres de droit, hein, des lectures pour spécialistes quand même. Je cite peut-être simplement le Manifeste pour la justice, qui est un ouvrage collectif coécrit avec Jean-Pierre Mignard, Thomas Clay, Pierre Jox en 2012, qui reste parfaitement valable. De toute façon, Christine Lazerge, vous ne partez pas, vous restez avec nous, car après le journal de 19h, on se retrouvera pour un téléphone sonne consacré aux discriminations envers les homosexuels. Alors que les agressions se multiplient, on se demandera comment lutter contre l'homophobie. Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler. Au standard du téléphone sonne au 01 45 24 7000, surtout appelez-nous.